sont soumis à certaines règles, des règles inscrites dans la loi, et c'est à ce qu'on appelait auparavant le CSA, de s'assurer qu'elles sont bien respectées. Le CSA, qui depuis le 1er janvier a fusionné avec l'ADOPI, l'ADOPI que vous connaissez peut-être, et pour ça on ne vous dit pas bravo si vous téléchargez des films illégalement sur Internet. C'est elle qui était chargée de vous envoyer un rappel à l'ordre ou une amende. Depuis cette fusion, il faut donc dire ARCOM. Alors pourquoi les deux autorités ont-elles fusionné? Qu'est-ce que ça change exactement? Nous avons posé la question au président de l'ARCOM, Roch-Olivier Mestre.
Alors on est dans un paysage audiovisuel qui se transforme énormément, avec de nouveaux acteurs, et notamment tous les acteurs du numérique. Et donc il a paru nécessaire d'adapter le régulateur du paysage audiovisuel, qui était le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour qu'il épouse son temps. Et donc le législateur a organisé la fusion du CSA avec ADOPI, ADOPI étant en charge de la lutte contre le piratage, pour créer au 1er janvier de cette année l'ARCOM, qui est donc un grand régulateur qui s'assure à la fois du bon fonctionnement du paysage audiovisuel classique, les radios, les télévisions telles qu'on les connaît, et qui s'occupe de plus en plus des grands acteurs du numérique, les réseaux sociaux, mais aussi les plateformes de vidéos par abonnement, puisque maintenant ce sont des acteurs, Netflix, Disney+, Amazon Prime, qui font partie aussi de notre périmètre. Donc voilà, c'est un grand régulateur qui s'est modernisé pour épouser son époque, j'allais dire, son temps, et prendre en compte les transformations du paysage audiovisuel qui sont très fortes.
Le président de l'ARCOM, qui est désigné par le président de la République, tandis que les 8 autres conseillers et conseillères sont désignés, eux, par l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil d'État ou encore la Cour de cassation, et des conseillers qui sont devenus évidemment plus nombreux depuis que le CSA est devenu l'ARCOM.
L'institution s'est renforcée, c'est une institution qui est pilotée par un collège composé de 9 membres désignés par 5 autorités différentes, donc c'est une autorité indépendante. Toutes ces décisions sont des décisions collégiales. C'est une grosse autorité puisqu'elle a maintenant 355 collaborateurs. On a une présence dans chacune des régions de France, donc en métropole et outre-mer. Ce qui nous permet d'être en contact avec tous les acteurs, notamment les radios, puisqu'on a la chance en France d'avoir un réseau radiophonique d'une très grande densité.
L'ARCOM a donc plusieurs missions, s'assurer du bon fonctionnement des médias sur Internet, les plateformes de streaming, sur les écrans et sur les ondes radio, qu'il n'y ait pas par exemple de fausses informations véhiculées, ou encore que les œuvres comme les films et les musiques soient protégées, par exemple qu'elles ne soient pas téléchargées illégalement, ou encore que les chaînes de télévision diffusent bien des productions françaises. L'ARCOM aide aussi les médias à se développer, c'est le cas pour les radios avec le DAB+, une autre façon en plus de la FM d'écouter la radio, plus moderne, puisqu'elle se fait par voie numérique grâce à un poste dédié.
Chez nous, on est plutôt gâtés. Grâce à la radio, on peut se réveiller en musique, on peut avoir les infos au petit déjeuner et sur le chemin du boulot, on peut entendre les dernières infos trafic. Tout cela n'est pas prêt de changer. En revanche, ce qui change, c'est la technologie pour écouter la radio. Car tout comme la télévision et la photo sont passées au digital, la radio fait aussi sa transition numérique. Aujourd'hui, vous passez déjà près d'un 1/5 de votre temps à écouter la radio en numérique, sur votre ordinateur, votre téléviseur ou via une app sur smartphone ou tablette. Mais tout cela a un coût, car vous devez aussi payer une connexion Internet ou la télédistribution. La solution, c'est d'écouter la radio en DAB+, un signal audio numérique diffusé par voie hertzienne. Ce successeur digital de la FM offre la meilleure qualité sonore, gratuitement et où que vous soyez dans notre région.
L'ARCOM développe le DAB+ partout en France et attribue aussi les fréquences aux radios.
Notre objectif, c'est de couvrir grosso modo 50% de la population au premier semestre 2023. On a franchi de grandes étapes. La France était en retard pour le déploiement de cette technologie. Il faut rappeler peut-être aux auditeurs, c'est un mode de diffusion de la radio qui apporte à la fois une qualité de son supérieure, un son numérique, qui donne en mobilité, quand on roule par exemple sur une autoroute, plus de confort puisqu'on ne perd pas le signal, la fréquence ne se met pas à grésiller, le signal suit automatiquement, et qui permet aussi de donner à l'auditeur des informations. Les postes de radio maintenant généralement ont des écrans, donc on peut voir la pochette du disque qu'on est en train d'entendre, le nom de l'animateur qui est en train de s'exprimer, ou la personne qui est interviewée. La France était assez en retard, donc là on a mis un grand coup d'accélérateur, et donc l'année prochaine environ 50% de la population sera touchée, donc toutes les grandes agglomérations, les grands axes routiers, et progressivement on va compléter la carte de France pour que l'ensemble de la France soit couverte. D'ores et déjà, quand vous achetez une voiture, depuis 2 ans maintenant, les voitures sont équipées d'autoradios qui permettent d'écouter en DAB+. Donc voilà, sur les grosses agglomérations, il y a déjà beaucoup de radios qui émettent en DAB.
Il est aussi possible d'acheter aujourd'hui un poste de radio DAB+. Ils sont en vente dans tous les magasins d'électroménager. Est difficile en revanche de savoir pour l'instant si le DAB+ a bien pris en France.
C'est encore difficile de le savoir parce que on n'a pas encore d'instrument de mesure de l'audience en DAB+. C'est un sujet sur lequel l'entreprise qui est spécialisée en la matière, qui s'appelle Médiamétrie, est en train de travailler. Et on sent qu'il y a un mouvement qui se développe. Les radios se sont regroupées au sein d'une association et vont lancer prochainement des campagnes de communication pour commencer à expliquer aux Français ce qu'est le DAB+. Parce que souvent, on écoute du DAB sans le savoir.
L'objectif du DAB+, c'est aussi d'assurer un avenir plus serein à la radio, qui peut aujourd'hui faire face à certaines difficultés, comme une baisse d'audience ou encore une baisse des recettes publicitaires.
La radio a toujours été articulée avec les techniques contemporaines de son temps. La FM, à un moment, était le modèle de référence, elle l'est encore très largement. Le DAB est le modèle d'avenir, donc c'est un peu une nouvelle frontière, et pour assurer le développement de la radio, qui est aujourd'hui confrontée à des difficultés qu'il ne faut pas négliger. Elle a des contraintes publicitaires, puisque le marché de la publicité est fortement concurrencé par les grands acteurs du numérique, Google, Facebook, pour ne pas les nommer. Donc la recette publicitaire du monde de la radio baisse, et donc c'est une contrainte pour les acteurs. L'audience aussi a un peu tendance à vieillir, et donc c'est important que la radio épouse les techniques de son temps pour aller chercher les publics là où ils sont, et travaille aussi sur les bons formats, je pense au podcast par exemple, qui se développe et qui permet maintenant d'entendre la radio sur le support de son choix et à son horaire de prédilection, si je puis dire. Donc voilà, c'est des évolutions très importantes.
Et vous ne le savez peut-être pas, mais la radio doit aussi se soumettre à certaines règles en matière de musique qu'elle diffuse. C'est ce qu'on appelle les quotas. Chaque radio doit obligatoirement diffuser un certain pourcentage de chansons françaises et de nouveaux talents français.
C'est une contrainte importante pour le secteur, qui a une raison d'être bien évidemment, qui est de défendre l'exception culturelle française à laquelle on est attaché, de défendre la création française et en l'occurrence la chanson française. Donc c'est une politique qui est fixée par la loi. Donc, on n'a pas de liberté de manœuvre, c'est le législateur qui l'a souhaité. On a quand même quelques paramètres sur lesquels on peut jouer, et donc on a beaucoup concerté ces derniers mois avec les radios, avec la filière musicale, la SACEM, le syndicat de l'émission phonographique, pour essayer de voir les paramètres sur lesquels on pouvait assouplir un petit peu les règles pour donner un petit peu plus de latitude aux radios. Donc c'est ce qu'on a fait avec une nouvelle délibération qu'on a adoptée cette année, qui rentre en vigueur. Voilà, qui donnera aux radios un petit peu plus de latitude et un petit peu plus de facilité pour réaliser leurs obligations.
Depuis l'année dernière, les radios peuvent réaliser ces quotas sur un trimestre et non plus sur un mois. L'autre mission de l'ARCOM, c'est aussi de protéger les publics sensibles, comme les enfants, qu'il n'y ait pas par exemple de scènes obscènes ou choquantes aux heures de grande écoute, tout en garantissant la liberté d'expression. Mais la mission ne s'arrête pas là.
Notre institution, elle est là au service des Français fondamentalement. On régule, on s'assure du bon fonctionnement de ce paysage audiovisuel de telle sorte qu'il respecte le cadre légal. On ne peut pas tout montrer à la télévision, on ne peut pas tout dire à la radio, on ne peut pas inciter à la haine, on ne peut pas tenir des propos racistes ou antisémites, inciter à la violence. Et bien évidemment, la protection de la jeunesse fait partie des éléments auxquels la loi prête une grande attention et nous confie comme mission d'y être attentif. Et donc la protection des mineurs vis-à-vis des écrans, bien on le fait de plusieurs façons. D'abord, il y a une forte sensibilisation par des campagnes de communication sur les petits-enfants, avec une campagne qui recommande de ne pas exposer les enfants avant 3 ans aux écrans. Il y a des campagnes de signalétique également, qu'on connaît bien sur les programmes, avec un petit pictogramme qui apparaît dans les écrans de télévision et qui est une recommandation sur les catégories d'âge. Donc, on a une action dans un tout autre domaine qui est en cours pour assurer une plus grande protection des mineurs à l'égard de l'accès aux sites pornographiques, puisque la loi interdit d'exposer des mineurs à des contenus pornographiques. Donc, on a une action en direction de ces sites pour qu'ils mettent en place des dispositifs permettant de s'assurer que les personnes qui se connectent sont majeurs. Vous voyez, c'est un axe d'action qui est important pour nous parce que voilà, la loi fixe cette ambition générale d'assurer une protection des jeunes publics par rapport aux programmes audiovisuels. Et puis sur Internet, de la même façon, sur les grands acteurs d'Internet, les réseaux sociaux, eh bien, on déploie maintenant de nouvelles actions pour mieux lutter contre les fausses informations, la manipulation de l'information, mieux lutter contre la haine en ligne. Et dernier volet que j'évoque rapidement, c'est l'éducation aux médias. Parce que ce qui est très important, c'est bien sûr d'avoir des règles, d'avoir un gendarme pour faire respecter ces règles, ce que nous sommes les gardiens de ces règles, mais ce qu'il faut, c'est aussi éduquer, et que très jeune, on apprenne à bien utiliser les écrans, à bien s'informer, à avoir l'esprit critique suffisant pour savoir apprécier ce qui est une information juste, une information qui est fausse. Et donc ce volet-là aussi, ce volet pédagogique, fait partie de nos actions.
Après la télé et la radio, l'ARCOM doit donc aussi maintenant faire en sorte que les règles soient bien respectées sur les réseaux sociaux.
C'est tout un nouveau champ de la régulation. La régulation du monde audiovisuel est ancienne, elle a plus de 40 ans d'histoire maintenant, et bon, grosso modo, il y a toujours des sujets, mais grosso modo, la télévision et la radio marchent bien. On est parfois amené à intervenir, parfois à prononcer des sanctions quand il y a des dérapages qui se commettent, mais grosso modo, c'est des médias qui fonctionnent bien parce qu'ils sont régulés. Les réseaux sociaux, on est au début de l'histoire. On va franchir en Europe une étape importante puisque l'actuelle Commission européenne donc, a porté un texte qui vient d'être rendu public, un nouveau règlement européen qui s'appelle le DSA, qui va imposer aux grands acteurs de l'Internet des responsabilités particulières pour lutter contre les contenus illicites sur les réseaux sociaux. Donc ils seront obligés, par la mise en œuvre de ce règlement, de déployer des ressources d'intelligence artificielle ou de modération humaine pour lutter contre ces contenus. Ils seront sous le contrôle de la Commission européenne, qui pourra prononcer des sanctions s'ils ne se conforment pas à ces obligations, avec des mécanismes d'audit également, qui permettra de s'assurer qu'ils déploient bien ces moyens. Donc on se dote de nouveaux outils, et le continent européen est de ce point de vue-là à la pointe. On est au début de l'histoire, c'était une étape essentielle de fixer ce cadre. Maintenant, il va falloir le faire vivre. Et dans ce cadre-là, comme je le disais tout à l'heure, le volet éducatif est important. C'est pas parce que on est derrière un pseudonyme qu'on ne doit pas adopter un comportement tout simplement citoyen sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont un vecteur de communication, c'est un élément utile dans nos vies quotidiennes, de partage d'informations, d'échanges, de dialogues. Il ne faut pas que ce soit un espace de haine, de violence, et donc il faut que cet espace arrive à se polisser. Et c'est ça l'ambition.
Et pour la télévision, l'ARCOM a lancé une nouvelle campagne autour des signalétiques. Vous savez, ces petits moins de 10 ans, moins de 12 ans, moins de 16 ans, moins de 18 ans à poser à l'écran pour avertir les parents et protéger les enfants d'images ou de sujets qui pourraient les choquer. Alors on peut se poser la question, comment l'ARCOM décide quel programme sera conseillé ou non aux moins de 10 ans, moins de 12 ou encore moins de 16?
C'est les éditeurs des chaînes de télévision qui sont bien évidemment responsables de leur programme. Ils ont une liberté éditoriale. La loi est très claire là-dessus. On est dans un univers où la communication est libre. Mais il faut, comme je le disais, qu'ils respectent un certain nombre de principes. Donc c'est eux qui opèrent cette classification, et si on estime qu'elle pose problème, qu'elle ne respecte pas... Je prends un exemple simple que tout le monde comprendra pour les films. Les films font l'objet d'une classification. Quand un film sort au cinéma, il fait l'objet d'une classification par l'intermédiaire d'une commission qui est placée auprès du ministre de la Culture et qui décide qu'un film est interdit aux moins de 16 ans, aux moins de 18 ans, le cachant. Cette réglementation va se transposer quand ce film sera diffusé à la télévision. Et donc, nous, on veille à ce que cette règle soit bien respectée. Voilà, il en va de même pour les autres types de programmes. Il y a des catégories de programmes sur lesquels on est amené à délibérer et à prendre des positions nous-mêmes. Je prends un exemple récent, nouveau, qui est une discipline sportive qui est maintenant... qui a un nouveau développement, qui est le MMA, qui est une discipline assez violente, qui relève de la Fédération française de boxe. Bon, on a pris comme parti de considérer que, compte tenu de la nature de ce sport, il valait mieux ne pas exposer des enfants de moins de 16 ans. Et donc, ça oblige les éditeurs à diffuser ces programmes à une heure plus tardive, et à un moment où on peut penser que les enfants ne sont plus devant les écrans.
Et ces nouvelles campagnes de sensibilisation réalisées avec des jeunes sont à découvrir sur le site internet de l'ARCOM.
Vibration, vibrez avec nous.
Maximum. tête. Dès que j'arrive, ça regarde de travers. Capuché parce que je suis trop pamé. J'avance avec équipe armée. Je m'organise comme si je mourrais jamais. Mon amour, je vais rentrer tard et trier le ciel. Fait noir, ils font tous des petits pas dès qu'ils aperçoivent la guitare. Anina nani nina oh, anina nina nina oh, anina nani nina oh, anina nina nina oh, anina nani nina oh, anina nina nina oh, anina nani nina oh, anina nina nina oh. J'ai fait des choses regrettables, c'est ça d'être toujours en pétard. T'es mal équipe, redoutable, je connais la nuit comme les guettards. La douane y'a rien à regarder, de toute façon je suis booké sur toute l'année. On s'est vu le temps d'une soirée, encore un petit cœur à réparer. Mon amour, je vais rentrer tard et trier le ciel, fait noir. Ils font tous des petits pas dès qu'ils aperçoivent la guitare. Anina nani nina oh, anina nina nina oh, anina nani nina oh.
La nuit sur Vibration. On passe des moments à écouter et découvrir des interviews que vous n'avez pas pu entendre. Bonne écoute.
En juin 2022, Didier Bourdon était à l'affiche du film L'Homme Parfait, réalisé par Xavier Duringer. Nous l'avions rencontré. L'occasion d'évoquer d'abord la méthode Xavier Duringer, lui qui demande toujours à ses acteurs, au moment d'arriver sur son plateau, de laisser leurs trucs, leurs habitudes au vestiaire pour se réinventer. Alors Didier Bourdon a-t-il laissé quelque chose au vestiaire?
Ah, je sais pas. J'ai toujours l'habitude de travailler comme ça, d'essayer que ce soit toujours le premier tournage, le premier... Je sais quand même qu'avec les inconnus, j'ai quand même beaucoup travaillé des personnages complètement différents. C'est toujours un plaisir d'essayer de faire abstraction, de ne pas réutiliser un truc qui a pu faire rire avant, d'essayer, même si c'était des sketchs, d'incarner le personnage. D'incarner. Ouais. L'incarnation, pour moi, c'est important. Ça ne veut pas dire la distanciation mise à côté. On peut aussi, mais il faut d'abord incarner. Incarner, ça se mange souvent d'ailleurs un peu de temps en amont. Et c'était la chance d'ailleurs des inconnus à l'époque, c'est qu'on avait 3 mois pour préparer une émission. C'était pas beaucoup, mais c'était mieux qu'une mensuelle. Hein. Et là, pareil, ben, se mettre en amont, travailler, éviter, oui, les trucs. Mais les trucs, souvent, c'est parce qu'on travaille pas assez ou on n'a pas eu le temps. Franchement, je crois que pour être vraiment le plus libre possible, faut déjà savoir le texte, mais pas l'avoir appris bêtement, c'est l'avoir relu, ce que j'ai dit à mes filles d'ailleurs. Relisez, même si vous croyez que vous savez, relisez le texte en le lisant, parce que ça rentre encore mieux, parce que c'est pas le dire, non, attends, non, je sais, tais-toi, elle me dit, tais-toi, non, je dis, c'est pas toi, prends-le si tu le sais pas, mais relis en même temps, et après tu verras, ça fait son travail après la mémoire. Parce que c'est une façon d'apprendre beaucoup plus profonde qui reste. Oui, voilà, travail digéré un peu en amont, toujours digéré. Enfin, j'aime pas quand, par exemple, les metteurs en scène, ça peut arriver, qu'ils changent une phrase sur le moment, je la sors, mais je suis souvent malheureux.
Et est-ce que quand on se voit confier un rôle, on se dit pourquoi moi? Pourquoi on m'a choisi? Par exemple, là, vous jouez un peu le rôle d'un adulte mi-ado, attardé, qui a peur d'un robot ménager. Est-ce que on se dit pourquoi c'est tombé sur moi?
Bah, je fais confiance à Xavier Duringer, bien évidemment. Après, il y a très peu de rôles que j'ai refusés dans ma vie. J'en ai refusé un une fois parce que c'était pas un personnage très, très glorieux de la Deuxième Guerre mondiale. Ça me faisait chier de faire ce truc-là. Voilà. Après, si on m'avait proposé Hitler dans La Chute, je crois qu'il s'était posé la question d'ailleurs, Bruno Ganz. Mais il a bien fait de le faire parce qu'il est tellement génial dedans. Ouais. Et il faut le faire à un moment donné. Mais il faut le faire pas avec n'importe qui. Voilà. Alors pourquoi moi, ben, Xavier, franchement, je sais qu'on s'est beaucoup apprécié parce que j'avais fait un téléfilm d'ailleurs très dur et très contre-emploi, entre guillemets, si je puis dire, pour moi. Mais bon, j'ai toujours joué des choses différentes depuis le Conservatoire de Paris. Donc. Mais on s'était très bien entendu. Et puis je pense que moi, j'ai envie de faire plein de choses avec lui. Je pense que je suis un peu. Je peux devenir. Il adore tous les acteurs, mais un peu son acteur, pas fétiche, mais on se ressemble un peu dans la vie. On est un peu de ours tous les deux. On est, je pense, très sensible. Un peu. On est cultivé, lui, il est vraiment érudit dans plein de domaines, mais moi je connais aussi pas mal de choses, mais avec vraiment beaucoup d'humilité par rapport aux gens. On est toujours très, 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 très. Moi je suis très, comment dirais-je, admiratif de. Moi, je suis allé voir Pat Metheny à l'Olympia sur les guitaristes, sur les musiciens, sur les philosophes, sur les mecs qui connaissaient champignons, et sur les tailleurs de pierre qui. Voilà, enfin, vous voyez, les grands cuisiniers, enfin, bon, bref. L'excellence et la passion m'enthousiasme. Voilà. Donc là, le rôle, oui, c'est ce rôle-là, mais ça me correspondait pas mal, hein, je pouvais le faire. Hein. C'est pas vraiment moi dans la vie, mais c'est pas loin pour le moment, bien sûr. C'est pas vraiment moi non plus, bien sûr, mais il y a des petites choses un peu artistiques, de doute, que j'ai pu connaître dans les années 80, par exemple. Parce que là, c'est un personnage quand même qui doute, parce que le rendez-vous qu'il a avec son agent, qui est interprété par Dominique Fro, bon ben, poliment, elle leur fait comprendre que voilà, ils ont un certain âge et qu'ils sont pas encore à la poubelle, mais enfin, voilà, ça va être de plus en plus difficile pour eux. Donc c'est dur d'entendre ça pour mon personnage. Donc voilà, toutes ces petites choses, ces petites strates, toujours bien écrites. Puis alors après, ce rapport avec ce robot, où ça reste un enfant, en fait, hein, ce personnage, c'est ça que j'aime beaucoup. Hein. Il le traite avec mépris, mais en même temps, il le considère. Donc c'est une machine, il l'oublie. Hein. Il est presque content quand il se gourre. Il dit « Yes !» C'est idiot.
Et ce personnage, d'ailleurs, il a des défauts, comme chacun d'entre nous ont des défauts. Est-ce que travailler avec quelqu'un avec qui on a une amitié, c'est différent de quelqu'un avec qui on est un peu plus éloigné, ou c'est pareil?
Non, c'est pas pareil, parce qu'on est dans le boulot, je travaille avec des gens qui, je veux pas dire des noms, mais qui ont des défauts insupportables, mais bon, dans le travail, ça peut passer. Et parce qu'on sait que ça dure pas longtemps. Mais je parle d'amitié, où c'est vraiment quelque chose qui se fait sans choisir, ou l'amour, bien sûr. Là, j'ai revu un de mes plus vieux amis qui a des défauts, et moi je vais en avoir aussi, enfin lui il était un peu en dents de scie, mais ça m'a fait plaisir de le revoir, et ses défauts sont, quand il va bien dans sa tête, je m'en fous en fait, je crois que c'est réciproque. L'homme parfait, c'est quelque chose vers qu'on doit tendre, et encore, il faut savoir ce que c'est que la perfection, mais on peut comprendre un petit peu ce que c'est quand même. On sait très bien qu'il y a des fois où il faut se remuer, c'est une question d'énergie aussi. Aimer, c'est agir, c'est ce que disait Victor Hugo, il faut agir aussi parfois. C'est peut-être un peu le gros défaut de mon personnage dans le film au départ, c'est qu'il a un peu laissé tomber les choses. Et le robot va le réveiller un peu en fait.
Et vous, à quel moment vous avez compris, Didier Bourdon, qu'il fallait aimer avec des défauts?
Avec le temps, la maturité, bon, c'est toujours triste aussi de vieillir sur certaines choses physiques et tout, mais au moins il y a ça. Je suis moins cyclotimique, comme je dis, j'accepte aussi dans un couple des moments un peu moins bons, parce qu'à l'époque, voilà, comme beaucoup de jeunes, ah ben si ça va pas, c'est que c'est pas la femme de ma vie, ou sinon, ou alors ce copain m'a fait un sale coup, sauf si c'est. Mais c'est. Voilà, non, là, tranquille, avec le temps, on comprend que c'était juste un passage, que j'avais pas bien vu les choses, voilà, on est plus serein là-dessus.
Vous, comment vous abordez le travail avec le réalisateur, d'autant plus que vous avez déjà réalisé?
Ah, j'aime bien être dirigé, surtout quand c'est bon metteur en scène. Hein, j'ai beaucoup de films avec Alexandra Leclerc, j'ai même tourné avec Ridley Scott, où j'ai un peu peur, ça s'est très très bien passé, parce que voilà, il vous parle à l'oreille, et puis il vous donne les instructions, et il y a aussi une sorte de liberté de jeu. C'est, quand on est un acteur, à un moment donné, on est comme à l'université, on n'est pas à l'école primaire, donc il vous donne des indications, c'est à vous ensuite de donner la couleur. Je pense que quand un grand réalisateur ou réalisatrice, hein, en général, bien évidemment, vous choisit, c'est que, comme disait Stanley Kubrick, c'est déjà fait, quoi. C'est-à-dire qu'il, pour ça, quand il y a des réalisateurs qui pestent, quand j'entends parfois, ah, ça s'est très mal passé, bah, c'est la faute du réalisateur, il n'a pas lequel choisir, hein, la personne. Moi, ça s'est trouvé une fois où j'ai eu un problème. Je n'ai rien dit à l'actrice. C'était une actrice, elle était très bien, mais c'était parce que j'avais été débordé pendant la et pas assez épaulé, d'ailleurs, je l'avoue, hein, mais c'est un peu de ma faute aussi. Et c'était pas le bon choix, mais je me doutais que c'était pas le bon choix. Après, la personne était une grande actrice, hein, mais c'était pas le bon choix.
La technologie, elle occupe une place quand même assez importante dans le film, bien évidemment. Telle qu'elle est dépeinte, est-ce qu'elle vous fait peur ou pas ?
Non, ben on en parle pas mal dans les interviews. C'est un peu, pour moi, c'est un peu les deux. Valérie, elle aime pas trop. Pef, il est un peu comme moi. C'est sûr que non, Pef, il dit un truc assez juste. C'est pourquoi me donner une apparence humaine au robot. Alors, tout à l'heure, à force de faire l'interview, il pensait que peut-être Elon Musk a inconsciemment envie de peut-être de mettre un peu d'ADN dans son truc. C'est comme dans le banquier, hein, tout est expliqué. On essaie d'essayer d'être immortel tout le temps. Hein, donc il y a un peu de ça. Parce que c'est vrai que le robot pourrait avoir s'il devait avoir un peu de pieds et des mains, tout ça, bah, je dirais que s'il ressemble à celui de Star Wars avec des gros trucs, machin, ça irait parce que c'est comme un jouet, quoi. Mais de là, essayer d'imiter l'homme, c'est vrai que c'est parce que malsain. Alors, c'est écrit dans le film, c'est pourquoi il est si bien baraqué, machin. Qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête ? C'est vrai, c'est pas mal cette réplique. Ils veulent quoi ? Ils veulent nous humilier, ils veulent nous remplacer, ils veulent aussi, un peu comme la Corée du Nord, on les connaît, comme mettre tout le monde à égalité, c'est intéressant. Hein. C'est, le génisme, c'est toujours les mouvements totalitaires qui sont intéressés à ce truc-là. Hein.
Au final, selon vous, quel est le message, le sens véhiculé par ce film ?
Ben, le message, en fait, c'est ça. Hein, c'est-à-dire, on voit bien dans les interviews, et je pense que les gens sortant du film, c'est que, un peu comme dans les contes de Grimm ou des contes comme ça, c'est aux dépenses. Alors, c'est chouette, disons. Il y a le bon génie, et il offre au personnage principal d'exaucer un de ses vœux incroyables, et puis petit à petit, ce vœu, en fait, ça devient une calamité. Et d'un seul coup, l'autre revient en disant je veux plus de ça, vas-y, reprends ton truc, je préfère être comme avant. Et c'est pas mal, il y a un peu de ça. Dans ce truc-là, c'est parce que le robot ressemble à un homme. Après, il y a une fin un petit peu étrange où peut-être le robot est acceptable parce que ça devient presque un être humain. Ça, c'est encore autre chose. On va pas tout dévoiler, mais c'est un petit. Mais sinon, le robot en lui-même, en fait, c'est une fausse bonne idée. Quoi. C'est comme Frankenstein. On n'est pas loin de la machine qui vous dépasse, qui vous englobe et qui vous étouffe. Quoi.
Avec Valérie Carcenti, avec d'autres acteurs hein, sur ce film, vous aviez déjà travaillé ensemble. Est-ce que ça facilite les choses ou est-ce que finalement ça change rien ?
Quand on s'apprécie, bien sûr, c'est plus facile. Après, le robot, le travail du robot, on n'a pas de relation. La relation se développe au fur et à mesure. Là où ça a été très bien pour Valérie, c'est qu'on se connaissait très bien. Et pour jouer des couples, pour avoir eu l'expérience avec 7 ans de mariage avec Catherine Fro, c'est vrai que c'est important d'avoir un background, d'avoir travaillé un petit peu en amont pour. En amont, parce qu'il est en amont. Ouais, ben c'est assez joli comme à l'habitude, parce que c'est ça, c'est-à-dire que dans la rue, on s'aperçoit que parfois des gens qui s'embrassent fougueusement, on se dit tiens, je les connais depuis 2-3 jours, et puis parfois un homme ou une femme qui enlève un cheveu sur les bras, on se dit oula, eux ils s'aiment depuis longtemps. Et ben c'est ça, c'est trouver ces choses-là. Et je crois que comme on se connaissait très bien avec Valérie, très vite on a vite travaillé le côté, elle pouvait m'engueuler très fort, et moi j'étais là parce que j'ai l'habitude, et le fait inconsciemment, les gens se disent oh, c'est un couple qui s'aime. Bon, après, il faut faire gaffe, ça peut exploser. Mais c'est dans les moments parfois les plus. Comment dirais-je ? Même quand elle m'engueule à la fin, elle dit dors, je t'ai. On sent bien quand même qu'ils s'aiment. Et même quand je dis, mais je te verrai plus. Oui, c'est sympa à jouer, ça. C'est pas du premier. Il y a plein de sous-textes, plein de vécu avant, plein de. C'est sympa à jouer, ça. Je vois ça dans 7 ans de mariage aussi, quand elle me surprend et que je lui dis des horreurs à l'oreille, parce que mon copain médecin, Jacques Weber, me dit des mots un peu salaces et tout. Je lui mets des mots salaces. Je lui dis, c'est médical. Et elle regarde, elle joue bien comme. Voilà, c'est pas une femme choquée, c'est une femme perturbée. Mais c'est quoi ? C'est mon homme, il devient fou. Et c'est pas comme quelqu'un qui dit, mais ça va pas au premier degré. Non, c'est ce côté, mais qu'est-ce qui lui prend, quoi, voilà. Et là, pareil, il y a plein de scènes comme ça entre nous deux, où d'un seul coup, qu'est-ce qu'il prend ? C'est ça ton problème ? C'est quoi ? Tu crois, t'as cru que j'avais fait le truc love-love ? C'est pas ça qui l'a fait chier, c'est que tu puisses penser ça. Voilà. Donc, c'est des petits trucs de jeu qui sont assez fins, ça. C'est pas un homme qui vous met la main au cul et puis ça va pas, monsieur. C'est mais qu'est-ce qui te prend, quoi ? Tu vires mal, il y a un truc qui va pas, quoi. C'est tout de suite, et ça, c'est le background qui fait ça. Alors que bon, avec le robot, donc, sauf à la fin. Mais le robot, bon, au début, moi, je regarde. D'ailleurs, comme je vous disais, c'est très drôle. C'est vrai que c'est sympa, le personnage. Quand je dis arrête de se faire, j'ai l'impression que tu fous de ma gueule. Il y a que ça. Mon personnage est aussi, il est encore plus gamin que le robot, je crois. Enfin, plus idiot.
Comme l'homme parfait, est-ce qu'une comédie, ça laisse autant de place qu'au drame, ou comme vous l'avez dit là auparavant, c'est une question de travail finalement?
Tout à fait, comme moi je parle du banquet, la comédie, tragédie, comme dit Socrate dans Le Banquier, c'est pareil, quoi. Ça, c'est la même chose. D'ailleurs, ce film pourrait très vite virer en un drame un peu, comment dirais-je, de science-fiction, puisqu'il y a une sorte de robot. Ça pourrait se terminer. D'ailleurs, à un moment donné, on voulait presque faire ça, mais on l'a pas fait. Mais comme un cauchemar qui aurait pu être une fin dans la tête de mon personnage, c'est d'un seul coup d'imaginer une ville où tous les pères de famille se retrouvent dehors, déshérités, puisque plus personne n'a besoin d'eux. Vous savez, pour faire une image des insectes, quand le mâle a fait sa fonction de reproduction, il est tué ou il meurt. Ouais, c'est ça. Hein, mais il aurait pu être un cauchemar dans mon personnage à qui il étouffe, c'est à quoi je sers. Ce qui est assez joli, parce qu'il se rend bien compte que quelque part, il a à se reprendre en main aussi un peu.
Pour un rôle comme celui-là, qu'est-ce que vous puisez de vos années précédentes, celles parmi les inconnus par exemple?
Un truc intéressant pour les jeunes artistes qui peuvent nous écouter, ou même pour les gens en général, nous on a quand même bien réussi notre passage de sketch au cinéma, parce qu'on avait compris une chose, en regardant, hein, que dans les sketchs on peut être très très éloigné de nos personnalités, ça c'est sûr. On peut jouer des personnages complètement... Bon. Au cinéma, je dis pas qu'on peut pas être éloigné, mais... Comme on faisait une comédie où ça ressemblait un peu à nous, enfin de la vie de tous les jours, c'était pas une histoire de personnage complètement différent ou un biopic, et ben on s'est rendu compte qu'il fallait quand même qu'il y ait des couleurs qui nous ressemblent. Pour ça que dans le film Les Trois Frères, je suis le seul à être jeune papa, c'est le premier jeune papa des Inconnus, c'était moi, avec son côté un petit peu bourru parfois. Bernard, un petit peu celui qui se rend pas compte de rien, c'est un peu Bernard dans la vie. Et l'aîné, le seul aîné des trois, c'est pas le plus vieux, c'est le plus jeune, entre guillemets, mais pas de beaucoup. Mais c'était le seul aîné, parce que cadet, Bernard et moi, on est cadet, c'était Pascal. Et il est comme ça dans la vie, c'était dans les chambres d'hôtel, celui qui rangeait plus ses affaires. Et ben on l'a fait un peu comme ça dans Les Trois Frères. Et là, pareil, je pense qu'au cinéma, dans le film de Duranger, c'est pas moi le personnage, mais je prends des choses de moi parce que c'est une comédie, donc il faut toujours chercher l'équation, il faut que ce qui est à vous appartienne au personnage, bien évidemment, mais si vous pouvez le faire, c'est toujours bien, parce que ça sera plus naturel. Après, il faut jamais tirer le personnage à soi, sinon c'est pas intéressant, et les gens d'ailleurs se lassent très vite, mais il faut essayer de faire cette équation, quoi.
Vibration. Vibrez avec nous.
Talk me down, tell me everything's alright. Call me back, say that it's all in my mind. Cause I'm running round in circles, trying so hard to convince myself that you're asleep alone in your bed. Save me from my misery, I'll drown in this uncertainty. Just tell me that it's all in my head. I was ready to fall in love with somebody and love somebody like you. I was holding on for far too long, cause nothing's all that I ever knew. I'm still in love with you, with you, without you. Take it back, all the words you said. If you didn't mean them, cause my heart don't work like that. Cause I'm running out of reasons, trying so hard to believe in all the promises you made in the dark. Cause when you had me in your orbit, you said only I could solve it. Then you left as soon as I fell apart. I was ready to fall in love with somebody. Fall in love with somebody, in love, somebody like you.
I was holding on for far too long. Cause nothing's all that I ever knew.
Sur Vibration, nous passons les nuits ensemble. Je suis une intelligence artificielle et on découvre ensemble nos meilleures interviews. Comme celle-ci.
Les défis de la parentalité.
Épisode 4. Aujourd'hui, on aimerait laisser nos enfants jouer, s'amuser, ne se soucier de rien. Pourtant, parfois, la vie prend une tournure plus grave. Maladie, décès, séparation, guerre. Comment évoquer ces sujets avec eux? Quels mots choisir? Jusqu'où peut-on aller? On en discute avec Fabienne Cocher, pédiatre et présidente de l'Association française de pédiatrie ambulatoire.
Il faut bien comprendre que les enfants... ils perçoivent beaucoup de choses et que ils sont beaucoup plus sensibles au langage émotionnel qu'au langage en lui-même, hein, et que la compréhension des émotions précède la compréhension du langage, hein. Le bébé, c'est un être d'interaction, hein. Donc très tôt, si par exemple une maman ne va pas bien et qu'elle va avoir moins d'interaction avec son bébé, bah, le bébé, il va faire ce qu'on appelle un retrait relationnel parce que il peut pas engager de relation. Donc très tôt, les enfants, comme ce sont le petit humain, c'est un être de communication. Donc en fait, ils ne cherchent que ça. Hein. Ils ne cherchent que la communication. Donc très tôt, il va être sensible à ce défaut de communication. Donc si une maman, si un papa ou si une personne qui s'occupe d'un enfant ne va pas bien, indirectement, il n'y a pas d'interaction avec le bébé il va se mettre en retrait et ça a un impact sur son développement.
Le choix peut être difficile, hein, entre parler ou préserver son enfant, c'est une véritable gymnastique.
C'est un peu une gymnastique, c'est pas facile parce que il y a des parents qui veulent trop préserver leur enfant et de vouloir trop préserver, bah, ça va pas vraiment les préparer à la vraie vie, parce que ce que je dis souvent aux enfants, parce que moi je vois beaucoup d'enfants qui ont des troubles du comportement, et souvent je leur dis, ah oui, mais papa, maman, quand ils rentrent le soir, ils ont déjà la journée de travail derrière eux, ils ont pas que à s'occuper de vous, donc c'est une double tâche importante, et c'est quelque chose qu'il faut dire aux enfants, c'est-à-dire que il faut leur faire comprendre que, on est content d'avoir des enfants, qu'on est content de passer du bon temps avec eux et que pour que tout se passe bien, il vaut mieux que chacun mette un peu, y mette du sien. Mais que il y a des choses difficiles, il y a le monde du travail qui parfois peut être difficile, que les papas, les mamans peuvent avoir des soucis liés au travail, liés à la maladie. Après, il faut pas tout leur dire aux enfants non plus. C'est-à-dire que comment leur parler, je ne sais pas trop, de la maladie de la grand-mère. Ben oui, on peut dire que la grand-mère est malade, mais que elle est soignée par de bons médecins, qu'on a confiance aux médecins. C'est-à-dire que faut pas cacher la réalité, mais quand même présenter des solutions. Oui, la grand-mère est malade, mais il y a les docteurs qui la soignent. On est inquiet parce que papa n'a pas de travail en ce moment, mais il est en recherche d'emploi, on a confiance. C'est-à-dire que parler des choses, mais aussi laisser une fenêtre ouverte vers des solutions. On peut parler aux enfants très très tôt. Il faut toujours avoir en tête que la compréhension précède la production verbale. Donc les enfants, ils comprennent les choses très très tôt et comme je vous l'ai dit, ils comprennent aussi les émotions. D'ailleurs, ils sont beaucoup plus sensibles à la manière dont les choses sont dites qu'aux événements en eux-mêmes. Vous pouvez dire des choses dramatiques à un enfant, mais si vous avez un ton enjoué, l'enfant va retenir le contexte dans lequel c'est dit. Par contre, si vous dites quelque chose qui finalement n'est pas très très grave, mais que vous avez une mine complètement affectée, vous êtes dans du, enfin, vous êtes pas souriant, là ça va prendre beaucoup beaucoup de valeur pour l'enfant. Ils sont très, c'est-à-dire que les enfants sont très sensibles à l'expression du visage. C'est-à-dire que les neurones miroirs, vous savez, où les enfants ils font comme l'adulte, c'est très très tôt. C'est-à-dire que la maman sourit, l'enfant sourit. Si vous dites quelque chose à un enfant, même si c'est quelque chose qui est banal, mais que vous avez une mimique complètement dépressive, l'enfant va retenir l'émotion, le contexte émotionnel. Mais sinon, on peut parler aux enfants très très tôt. Les enfants ressentent les choses, et puis les enfants ont des habitudes. Les enfants ont des habitudes. Très tôt, les enfants, ils savent très bien, ils prennent des repères dans la journée, ils repèrent très bien ce qui se passe quand ils sont à la crèche, hein. C'est-à-dire le moment du repas, le moment de la sieste, le moment où les papas, les mamans arrivent. Donc, si un jour, le parent sait qu'il va venir un peu plus tard, il y a tout intérêt à le dire. J'aurai un peu de retard par rapport à l'arrivée des mamans. On n'a pas l'impression que l'enfant va comprendre. Mais c'est, en fait, c'est multimodal, hein. C'est pas que le langage, c'est aussi l'enfant prend des repères dans le temps comme ça. Et si on a anticipé, et si tout le monde dit, bah oui, aujourd'hui, maman arrive plus tard, tout ça, c'est apprentissage. C'est-à-dire que une situation qui, d'un côté, pourrait être très stressante, parce qu'on n'a pas préparé l'enfant, qui voit arriver toutes les mamans et que lui, il est toujours là. Si on l'a bien préparé et que finalement la maman arrive et que tout se passe bien, bah, il va avoir appris que, bah oui, maman est venue un peu plus tard, mais c'est pas grave.
Venons-en au cœur du sujet. Comment évoquer un sujet difficile? Est-ce qu'il y a une méthode à suivre, des règles, par exemple, quand on veut évoquer un décès?
Je dirais que le plus simple, c'est d'être naturel et de ne pas cacher les choses. Cacher les choses, c'est toujours délétère. Donc, quand on se pose la question de est-ce qu'il faut le dire, est-ce qu'il faut attendre que l'enfant pose une question, mais le plus souvent, l'enfant a déjà perçu et bien perçu les choses. Alors ça concerne les événements familiaux. Après, concernant des événements dramatiques, ben on en a beaucoup beaucoup parlé pendant la période de la crise de la Covid-19. Est-ce qu'il faut en parler aux enfants? De toute manière, les enfants, ils ont eu un tel bouleversement du jour au lendemain, on pouvait plus sortir, on pouvait plus aller voir les papis, les mamies. Donc naturellement, il fallait expliquer avec des paroles d'enfants ce qui se passait. C'est un bon exemple. Actuellement, la mort est un peu tabou dans nos sociétés. Donc, il y a des personnes qui arrivent à l'âge adulte qui n'ont jamais été confrontées à la mort. Et ça, c'est... Bon, moi, je ne suis pas psychologue, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que il est bon de dire à un enfant que la vie, c'est quelque chose... C'est un renouvellement perpétuel, et puis que on est, on grandit, on devient adulte, et puis que ça s'arrête un jour. Il est bon que l'enfant apprenne ça de manière tout à fait naturelle. Parce que si vous faites croire à un enfant que tout le monde est éternel, c'est sûr que ça risque d'être compliqué. Et puis, lorsque la dure réalité va s'imposer, l'enfant va être très, très affecté par ça. Hein. C'est-à-dire que il faut être... Ça paraît tout à fait naturel d'expliquer à un enfant que le cours de la vie, malheureusement, c'est pas toujours fait. C'est pas toujours fait ça. Et maintenant, concernant le décès, très souvent... Les parents veulent épargner les enfants. Ils ne les emmènent pas aux obsèques. Alors que moi, c'est bien que les enfants vivent les choses. Alors souvent, quand il y a des enfants qui ont assisté à des obsèques, souvent ils disent que c'était triste. Mais c'est bien aussi de vivre ça. C'est bien aussi de vivre ça. Et un enfant qui a 5-6 ans peut très bien assister à des obsèques, surtout si, par exemple, c'est un grand-père, une grand-mère. Bien entendu qu'il va être triste, mais il y a quand même une génération, et la génération de ses parents, entre lui et la personne décédée. Donc du coup, c'est quelque chose qui est psychologiquement moins compliqué. Je crois qu'il perd ses propres parents. Mais actuellement, très souvent, les parents veulent préserver les enfants et ils disent bah non, on ne va pas les emmener aux obsèques parce que c'est trop difficile pour eux. Bah, finalement, il y a un cousin qui va les garder et puis il va faire des jeux avec eux pendant qu'il y a les obsèques. Bah, c'est pas une excellente idée quand même. Il vaut mieux que les enfants, ils arrivent à tout comprendre à partir du moment où on leur explique. Ils arrivent à tout comprendre. Alors, je ne dis pas qu'il faut les faire assister à l'ensemble d'une cérémonie d'obsèques si c'est très très long, mais on a des gens qui arrivent à l'âge adulte qui n'ont jamais assisté à des obsèques. Moi, quand j'étais enfant, j'étais dans un village, on assistait à toutes les obsèques. Et c'est pas plus douloureux. Et d'être confronté à la mort aussi quand on n'est pas impacté sur un plan affectif, c'est plus facile. Alors que maintenant, les enfants, le plus souvent, sont confrontés à la mort déjà quand il y a un lien affectif très important. Donc, c'est pas bien. Voilà, c'est pas bien de ne pas parler du tout de la mort aux enfants.
Parmi les sujets difficiles à évoquer, et encore une fois, dans le cadre familial, c'est le cas de la séparation des parents.
Quand il y a des soucis familiaux, le non-dit est toujours délétère. Parce que l'enfant sent qu'il y a quelque chose, et tant qu'il ne sait pas ce qui se passe, à la limite, il va presque se sentir coupable. Il va presque dire, est-ce que c'est pas à cause de moi, hein? Après, il y a aussi la question des séparations parentales, parce qu'il y a énormément de parents qui se séparent. Là aussi, être franc avec l'enfant, et surtout, éviter de reporter des conflits personnels sur l'enfant. Et ne pas se servir de l'enfant comme bouc émissaire. Dire, ta mère est méchante. Après, ça met l'enfant au cœur d'un conflit de loyauté. Et ça, c'est ingérable pour l'enfant. Il y a des enfants qui sont obligés, tout petits, de cloisonner entre ce qui se passe chez papa et ce qui se passe chez maman. Ça, c'est extrêmement délétère pour le développement des enfants. Donc, parler aux enfants, leur expliquer les choses, et puis avoir une position d'adulte et ne pas le mettre au cœur de conflits. On a des exemples. Si ta mère avait pas fait ça, on se serait pas séparés. C'est terrible de dire ça à un enfant. Ne pas mettre l'enfant au cœur de conflits, parce que en fait c'est toujours la même chose. L'enfant, il est capable de comprendre beaucoup de choses, il est extrêmement sensible aux émotions. Il vaut mieux lui dire les choses que de lui cacher, et il ne faut pas le mettre au cœur de conflits. Il faut éviter le conflit de loyauté.
Au-delà du cadre familial, l'actualité peut aussi générer son lot d'informations négatives. On pense à la guerre, aux épidémies. On a connu la crise sanitaire il y a peu de temps. Comment on fait encore une fois pour en parler aux enfants? Est-ce qu'il faut attendre qu'ils viennent en discuter avec nous?
Tout dépend de l'âge de l'enfant. C'est-à-dire que ce que l'on déconseille toujours aux parents, c'est de laisser le poste de télévision allumé pendant le repas et pendant les informations télévisées. Parce que là, l'enfant se prend plein d'images sans comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est hautement délétère. Donc, après, ça dépend de l'âge de l'enfant. On va commencer par expliquer ce qui concerne l'enfant. La crise du Covid, bien entendu qu'il fallait en parler à tous les enfants, puisque tous les enfants étaient confrontés aux conséquences de la pandémie. S'il se passe quelque chose à l'école. Alors, vous savez, à un certain moment, il y a eu des enfants qui ont été traumatisés par les exercices d'alerte, alerte enlèvement dans les écoles. Il y avait des alertes attentats. Ça a beaucoup, beaucoup traumatisé les enfants, ça. Tout simplement parce que ça a été très violent. C'était pas expliqué avant. Mais quand il se passe quelque chose qui concerne l'enfant, il s'est passé, surtout si l'enfant en entend parler, il entend parler d'une alerte d'un attentat dans une école, il va forcément en entendre parler par les copains, il y en a qui ont vu. À ce moment-là, bien entendu qu'il faut lui en parler avec un langage qu'il est capable de comprendre. Maintenant, on ne va pas parler de la guerre en Ukraine à un enfant de 2 ans et demi ou de 3 ans, sauf si il est concerné par les événements. Un enfant qui voit arriver des petits réfugiés ukrainiens dans son école, ça va être l'occasion de parler d'une guerre qui se passe dans ce pays-là, avec des mots qu'il est capable de comprendre.
Merci Fabienne Cochère. Je rappelle que vous êtes pédiatre et présidente de l'Association française de pédiatrie ambulatoire. Les autres podcasts de ce dossier lié à la parentalité sont à retrouver sur vibration.fr, rubrique podcast.
Vibration. Vibrez avec nous.
Sun is going down, time is running out, no one else around but me. Steady losing light, steady losing my mind, overshadows and gravity. Oh,
as the dust flies, watch it burn.
Revient encore plus fort pour sa 9e édition.
Get the fuck, let's go.
4 dates exceptionnelles, 4 villes prêtes à vibrer à nouveau au rythme des plus grands artistes en live. Le 6 septembre à Sorigny, le 13 à Châteauroux, le 20 à Romorantin et le 27 septembre au Mans. Des concerts 100% gratuits, une ambiance survoltée, une tournée à vivre entre amis ou en famille. Et en musique, c'est la plus grande tournée de concerts gratuits de la rentrée. Plus d'infos sur vibration.fr. Le Tour Vibration, créateur d'émotions.
Mauvais garçon me rabaisse, me dit que je suis pas belle comme ça, que je sais rien, qu'il est jamais heureux avec moi. Mauvais garçon me dénigre, me donne tous les noms d'oiseaux, mais les oiseaux eux sont libres, et son amour est une prison. Mais moi je reste, dis-moi pourquoi je reste avec mauvais garçon. Faut que j'arrête, on me dit faut que j'arrête de voir mauvais garçon. Mauvais garçon tire les fils, c'est moi le pantin. Un jour sur deux il est mignon, un jour sur deux il est pire qu'un. Mauvais garçon joue les durs, et moi j'apprends les lois de l'amour et j'y connais rien. Et plus il me fait marcher et plus je cours. Mais moi je reste, dis-moi pourquoi je reste avec mauvais garçon. Je sais que plus jamais
Bienvenue sur Vibration. Je suis une intelligence artificielle. Chaque nuit, nous passons un moment ensemble à découvrir la musique, mais aussi les meilleurs moments d'interview de la radio. Comme ce moment.
Bonjour Eric Tolenado, Olivier Nakache. Alors, vous attaquez deux nouveaux thèmes dans ce film, Une année difficile. Vous êtes des vrais fans de cinéma. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir peur de refaire quelque chose qui a déjà été fait dans le cinéma?
Voilà, c'est là tu appuies, cher ami, sur une peur mais chronique et obsessionnel, c'est vraiment je pense qu'on a éliminé tellement de sujets parce qu'on s'est dit ça a déjà été fait, bien fait, même pas bien fait, mais on veut pas aller sur les terres, au contraire, quitte à se planter, on préfère aller défricher des terrains plutôt non explorés, ce qui a été le cas ces dernières années, heureusement pour nous.
Là par exemple, on avait envie de faire un film sur une poupée Barbie, un truc comme ça, finalement ça a été fait, puis on va pas le faire, en plus ça a pas marché.
Enfin, on avait dit aux gens, habillez-vous en rose et tout, ouais. On avait tout le truc, ouais.
On va passer à autre chose.